d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La parole des accusés, très attendue au procès du 13 novembre. L'audience doit reprendre aujourd'hui avec deux jours de retard en raison du Covid. Et la cour entre dans le cœur du sujet, l'examen des faits reprochés à ceux qui sont dans le box. Tant bien que mal, l'Assemblée nationale donne son feu vert au pass vaccinal, alors que l'Italie choisit elle carrément l'obligation pour les plus de 50 ans. Nous serons à Rome. Au sommaire aussi, ces dizaines de manifestants tués par la police au Kazakhstan, la Russie envoie des troupes. Et puis beaucoup plus léger, ce débat qui agite les boulangeries en cette semaine de l'épiphanie. Galette ou brioche?
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui une invitée exceptionnelle, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
France Inter.
Salah Abdeslam est-il suffisamment remis du Covid pour rejoindre le box des accusés?
Une dernière expertise médicale doit le confirmer ce matin, avant la reprise, sauf surprise, donc du procès des attentats du 13 novembre. Le test positif d'Abdeslam aura donc entraîné deux jours de retard sur le calendrier. Et dans ce procès fleuve, après les auditions des victimes et des rescapés cet automne, c'est un autre chapitre crucial qui s'ouvre aujourd'hui, Charlotte Piret.
C'est maintenant qu'on entre dans le cœur du sujet, celui des faits reprochés à chacun des accusés. Maintenant qu'on va pouvoir entendre ces 14 hommes présents à l'audience et leurs proches, une nouvelle phase du procès très attendue, des parties civiles notamment, ainsi que le président de l'association de victimes Life for Paris l'a confié à Sophie Parmentier. Arthur Desnouveaux.
On attend évidemment la parole des accusés sur les faits et aussi sur le point de bascule qui a fait qu'ils sont passés d'une vie relativement normale à l'islamisme le plus radical qui mène à enfiler une veste explosive. Donc la question qui se pose pour nous, c'est de savoir est-ce qu'ils vont parler ou est-ce qu'en fait ils vont rester mutiques depuis le début du procès. Ils ont dit des choses mais qui tenaient plus de la revendication que de l'explication et en tout cas qui restaient très génériques et pas du tout sur leur cas personnel.
Cet après-midi, c'est de l'accusé Osama Krayem qu'il doit par exemple être questionné. Mais ce ressortissant suédois, 29 ans, cheveux longs, barbe, cet ancien cadre de l'État islamique et également membre du commando de l'attentat de Bruxelles en 2016, refuse de comparaître depuis la fin du mois de novembre. Il n'était pas non plus dans le box lors de la brève reprise mardi et on ignore donc s'il sera disposé à s'expliquer sur les préparatifs du 13 novembre auxquels il lui est reproché d'avoir participé ou encore sur ce voyage à l'aéroport d'Amsterdam où les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu commettre un autre attentat.
Charlotte Piret au procès des attentats du 13 novembre 2015. Quant à Salah Abdeslam, il doit lui être entendu la semaine prochaine pendant deux jours.
Il est 7h32, Omicron flambe partout en Europe et avec lui des nouvelles restrictions chaque jour ou presque.
Oui, la République tchèque par exemple impose deux tests par semaine en plus du vaccin pour tous les travailleurs. Le masque redevient obligatoire à l'extérieur en Roumanie et en Italie, la moitié de la population sera bientôt soumise à l'obligation vaccinale. Rome va l'imposer à tous les plus de 50 ans, qu'il travaille ou pas. Mario Draghi change de braquet, malgré une majorité divisée sur la question, Olivier Tosseri.
Tour de vis contre les Novax. En Italie, Mario Draghi l'avait promis aux Italiens. Il ne veut pas sacrifier la reprise économique et entend préserver ce que nous avons reconquis cette année, une vie normale. Un décret rend donc obligatoire la vaccination pour les personnes âgées de 50 ans et plus. Cela concerne 28 millions d'Italiens sur les 59 millions d'habitants que compte la péninsule. La nouvelle mesure est effective immédiatement et jusqu'au 15 juin prochain et concerne tous les résidents, aussi bien italiens, européens que citoyens de pays non membres de l'Union européenne. Le pass sanitaire renforcé apportant la preuve de vaccination ou d'immunité contre le virus suite à une guérison est désormais indispensable pour accéder aux bâtiments publics, aux commerces non essentiels, aux banques, aux postes et aux salons de coiffure entre le début février et la fin mars. Le président du Conseil a dû surmonter les réticences de membres importants de son gouvernement. Nous voulons freiner la courbe des contagions et inciter les Italiens qui ne sont pas encore vaccinés à le faire, s'est-il justifié. L'Italie a recensé ce mercredi près de 190 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, un record depuis le début de la crise sanitaire, avec une hausse de près de 170% de nouveaux cas en une semaine. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
Le Covid et Omicron qui de nouveau bousculent l'agenda culturel et sportif partout sur la planète. Aux États-Unis, les Grammy Awards sont reportés au calendrier grec et le prestigieux festival du film de Sundance passe en version 100% virtuelle. Lui pensait pouvoir participer à l'Open d'Australie malgré son opposition au vaccin. Novak Djokovic déchante ce matin après des heures d'attente à l'aéroport de Melbourne. Les autorités locales lui refusent finalement l'entrée sur le territoire. Visa annulé. Le numéro 1 mondiale du tennis n'aurait pas présenté les documents nécessaires pour sa dérogation médicale. Mais le Serbe ne compte pas en rester là. Il a déposé un recours en justice qui est examiné en ce moment même à Melbourne. En France, après 3 jours de débats tempétueux, l'Assemblée approuve le projet de loi instaurant le pass vaccinal. 214 voix pour, 93 contre ce matin dans l'hémicycle. Sur le front épidémique, 330 000 contaminations hier. Et cette question, face à la contagiosité d'Omicron, les masques chirurgicaux sont-ils suffisants? Pas de décision nationale à ce stade, mais sans attendre, c'est déjà la ruée sur les FFP2 réputés plus protecteurs. Reportage à Lyon de Christophe Vincent.
Au rayon masque des grandes surfaces, l'emplacement des FFP2 est vide, pas d'approvisionnement en vue. Pharmacien Philippe Costa est lui aussi en rupture depuis Noël.
On n'avait quasiment plus de demandes du tout pour des FFP2 et là on a épuisé tout notre stock et on a encore des demandes. Nos grossistes n'en ont pas en stock. J'essaye d'avoir des fournisseurs qui pourraient m'en fournir des petites quantités et à des prix raisonnables. Parce que là aussi, on trouve de tout. Tout le monde voit qu'il y a des cas autour de lui, donc je pense qu'il y a un engouement comme on avait pu le voir au début pour les gels hydroalcooliques, pour les gants. Ça crée un engouement qui n'est pas toujours fondé. C'est juste qu'ils ont peur, donc surtout des personnes âgées.
En ville, masque obligatoire. Le chirurgical reste majoritaire, mais on revoit des becs de canard.
J'ai une faiblesse pulmonaire, donc mon médecin m'a conseillé parce qu'ils sont quand même beaucoup plus efficaces. Ça fait partie peut-être des choses qu'aurait pu endiguer un petit peu plus. Quoi.
Quand il y a du monde dans des lieux clos, je préfère mettre un FFP2, surtout en ce moment. C'est vrai qu'il est moins facile à supporter, mais bon. Et il coûte plus cher, bien sûr.
6,25€ en grande surface, le double des chirurgicaux. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et un peu en décalage avec la métropole, ça commence à flamber aussi en Outre-mer, notamment en Guadeloupe, où le couvre-feu est rétabli pour 3 semaines à partir de 22h chaque soir. À l'étranger, la Russie et ses alliés des ex-républiques soviétiques envoient des troupes au Kazakhstan après les émeutes des dernières 48 heures. Les manifestations ont démarré dimanche face à la hausse des prix du gaz et c'est en train de dégénérer. On apprend ce matin que la police a tué des dizaines de manifestants qui tentaient de prendre d'assaut des bâtiments gouvernementaux. Hier soir, Olivier Poujade, le président Tokayev, a pris la parole à la télévision d'État.
C'est un chef d'État désemparé qui s'adresse à ses concitoyens. Kassim Tokayev évoque des agressions, une menace terroriste et finit par demander l'aide de Moscou et de ses alliés. Un peu plus tôt, Tokayev est même allé jusqu'à écarter du pouvoir Nursultan Nazarbayev, figure tutélaire du Kazakhstan pendant plus de 30 ans, inspirant aussi bien l'admiration que la terreur. C'est lui, l'ancien président de 81 ans, devenu chef du Conseil de sécurité nationale, que les manifestants ont pris pour cible ces derniers jours.
On a quand même entendu des Nazarbayev dehors, dégage le vieux.
Michael Leviston est chercheur sur l'Asie centrale à l'Institut français des relations internationales.
J'ai surtout entendu des critiques sur le système oligarchique mis en place par Nursultan Nazarbayev, des critiques vis-à-vis de son clan. On voit bien quand même qu'il est en train de se passer quelque chose de très très inattendu de par son ampleur et de par sa violence. La page du pouvoir Nazarbayev est peut-être en train de se tourner.
Cette page, l'actuel président Tokayev a décidé de la tourner, sa dernière carte après avoir limogé son gouvernement après être revenu sur l'augmentation des prix du gaz. Mais ce mouvement de contestation, sans leader désigné, semble déterminé si l'on en croit les dernières vidéos apparaissant sur les réseaux sociaux. Une foule parvenant même sous la pression à faire reculer par endroits des véhicules blindés militaires.
Le Kazakhstan qui est quasiment coupé du monde, Internet ne fonctionne plus dans le pays depuis 24 heures, tout comme les messageries instantanées. Des milliers de partisans de Trump chauffés à blanc qui s'élancent contre le symbole de la démocratie américaine. C'était le 6 janvier 2021 aux États-Unis, l'assaut contre le Capitole de Washington et ses images choc. Un an plus tard, Joe Biden veut marquer le coup et c'est donc au Capitole qu'il prendra la parole cet après-midi, discours devant le Congrès. Et selon la Maison-Blanche, le président dénoncera la responsabilité particulière de son prédécesseur dans ce chaos. Un signe d'apaisement entre l'Algérie et la France. Après 3 mois d'absence, l'ambassadeur algérien est de retour aujourd'hui à Paris. Il avait été rappelé dans son pays début octobre après des propos sévères d'Emmanuel Macron contre le système politico-militaire algérien.
Il est 7h39 et c'est l'un de ces débats culinaires, Alexis, dont seule la France a le secret.
Oui, relancé chaque année à l'occasion de l'épiphanie. Vous êtes plutôt gâteaux, galettes frangipane ou brioche des rois. Eh bien, selon les régions, les recettes et les appellations changent. Hein. Coque dans le sud-ouest, nourole en Normandie ou encore galette comtoise à Besançon. Mais à Marseille, la tradition, c'est bien la brioche ronde garnie de fruits confits. Et là aussi, faut choisir son camp, William Delesseux.
Dans ce débat, place un spécialiste à la tête de la pâtisserie, des Marseillais au pied du quartier du Panier, Pascal Guglielmi surtout. Ne lui parlait pas de couronne des rois.
À Marseille, on appelle ça le gâteau des rois. C'est une très bonne brioche avec d'excellents fruits confits, du melon confit, mais on a aussi des figues confites, des clémentines de Corse et aussi de la poire confite.
Quelques secrets de fabrication. Le plus important, la pâte.
On met ça une nuit au frais. S'il y a beaucoup de beurre à l'intérieur, la brioche sera meilleure, évidemment.
Pascal Guglielmi propose ce matin une cinquantaine de gâteaux des rois, comme de galettes à la frangipane. Et surprise, ce sont elles qui se vendent le mieux.
Ce serait péjoratif de dire que les Marseillais aiment que le gâteau des rois, les Marseillais aiment aussi la crème d'amande.
Devant la vitrine, le sujet divise Yves et Anne-Marie.
Je suis marié à un Marseillais, si je dis pas couronne, je me fais assassiner.
J'ai l'habitude, j'aime ça, j'aime les fruits confits, voilà.
C'est très clivant, j'ai l'impression.
Oh là là, oui! Non, c'est excellent quand elle est très bonne. Il y en a des fois qui sont très estouffadous. Hein.
C'est-à-dire ah,
estouffadous, vous comprenez, vous n'êtes pas Marseillais, vous. C'est étouffe chrétien.
Couronne ou galette, il y aura forcément un roi ou une reine une fois le dessert terminé. Marseille, William Delesseux, France Inter.
Oui, c'est bien l'essentiel hein, qu'il y ait la fève. Et d'ailleurs, certains ne font pas semblant, Nicolas. Hein, comme ce boulanger de Clermont-Ferrand qui a caché 2 louis d'or Napoléon de 10 francs dans ses galettes. Valeur 180 euros quand même.
Oui,
faut pas l'avaler. Hein.
Pas mal. Oui, effectivement. Merci c'est Alexis dommage. Morel. L'édito politique à suivre.